Bonjour à toutes, bonjour à tous, Marc Doucet. Donc, je vais commenter le sujet de DCG UE11, contrôle de gestion de la session 2019. Donc, tout de suite, bon, c'est pas la peine de l'éluder. On va parler des erreurs qu'il y a eu dans le sujet. Notamment, enfin, il y en a eu trois au total, dont deux dans l'annexe 4 qui ont dû, et visiblement à la lecture des réseaux sociaux, ont fait perdre beaucoup de temps et perturbé, découragé, écœuré beaucoup de candidats. Et une autre erreur dans l'annexe dans une autre annexe qui était elle beaucoup moins dans une autre question qui était moins grave, qui portait pas à conséquence. D'accord? Donc on en reparlera quand on viendra dessus. Alors, je me suis dit, c'est quand même dommage, surtout quand le sujet, notamment le dossier 4, s'appelle pilotage de la qualité. Sans commentaire. Donc, ce sujet portait sur quatre dossiers. Un premier dossier, analyse de la performance commerciale sur 5 points. Un deuxième dossier, contrôle budgétaire de la production sur 5,5 points. Un dossier, analyse de la rentabilité sur 3,5 points. Et un dossier numéro 4, le fameux pilotage de la qualité sur 6 points, qui était donc le dossier qui, en plus, valait le plus cher. Et vous jugez sur comment piloter de la qualité. Donc, ce sujet, ceci dit, en dehors des erreurs qu'il y a eu dans le sujet, en tout cas 2 sur 3, c'est dommage parce que c'était un sujet qui était tout à fait abordable. Alors, je dis pas d'avoir une note exceptionnelle, mais en tout cas, c'était possible d'obtenir la note de 10, d'arriver au moins à 10 sans ces problèmes. D'accord? Donc voilà, c'est dommage. Alors, je suppose, mais ça, bon, j'en suis à peu près certain que il y aura des directives pour majorer les notes. Alors, je ne sais pas de combien de points, bien sûr, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, mettons 1 ou 2 points, j'en sais rien. Pas sûr que ça suffise compte tenu de la perte de temps que ça a dû engendrer pour certains des candidats et le stress que ça a généré, surtout qu'il s'agit d'un examen national et il n'y a pas, comme à la faculté, quand on rate au mois de juin, on repasse au mois de septembre le rattrapage, par exemple. Là, non, on perd 1 an et tous ceux qui travaillent ou compris des disponibilités pour suivre ça, c'est vrai que ça peut poser problème. Alors, ceci dit, même avec ça, c'était pas impossible d'avoir la moyenne parce qu'ils vont quand même, encore une fois, probablement majorer des points, et pour le reste, il y avait des choses quand même qui étaient tout à fait abordables. Faut pas non plus, vous voyez, exagérer à l'envers. Alors, ceci dit, dans le dossier 1, donc sur ce point analyse de la performance commerciale. Donc, il y avait, comme je vous disais, à la fois des questions de logique, de cours, et puis des questions techniques. Donc, par exemple, dans le premier dossier, expliciter l'évolution des ventes des coffrets 1 et sans faire de calcul, proposer une méthode de calcul de prévision donc pour 2018. Bon, ben là, ça se voyait très nettement. Avec le schéma, hein, avec le graphique que l'on avait en annexe, on voyait bien qu'il y avait une forte augmentation. Ça a fortement augmenté, puis ensuite vers la fin, ça a fortement ralenti. Mais il y avait au départ toute une évolution qui était tout à fait exponentielle. Ensuite, deuxième question, effectuer les prévisions des ventes du coffret 2 pour décembre 2018 en justifiant la démarche utilisée. Donc, ben là, on avait tous les éléments qu'il nous fallait, hein, puisque on avait la fonction, donc il suffisait, si on avait travaillé le cours sur les prévisions des ventes à partir d'un ajustement exponentiel, il n'y avait pas de souci franchement majeur là-dessus. Ensuite, troisième question, analyser l'évolution des ventes des deux coffrets en précisant les limites des techniques de prévision utilisées, proposer des pistes d'amélioration. Alors bon, alors ça c'est toujours pareil, ça fait partie des questions alors qui ne sont pas du cours ni de la technique, mais disons de plus près du commentaire. Bon, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas trop su quoi répondre à ce type de à cette question, mais bon, là aussi, quand vous verrez la correction, vous verrez, c'était pas non plus très compliqué. Le problème, c'est qu'on voit bien que probablement qu'il y a des coffrets, les coffrets 1 dans le cas précis, qui sont en phase de maturité, alors que les coffrets 2 sont encore en pleine croissance. Et le problème des techniques de prévision qui sont utilisées là, c'est souvent d'ailleurs le problème pour ce genre de prévision, de type de prévision, c'est-à-dire que on utilise évidemment les données du passé pour prévoir l'avenir. Le problème étant, est-ce que ce que j'ai observé dans le passé continuera de se passer dans le futur, d'accord. Donc c'est ça le souci. Ensuite, quatrième question, justifier le choix d'un calcul d'un écart de surmarge plutôt qu'un calcul d'écart sur chiffre d'affaires. Là aussi, bon, mais c'est un classique, hein. Donc, je vais pas commenter chaque phrase, vous verrez. Mais enfin bon, là c'est pas très compliqué. On pouvait prendre aussi des points là-dessus. Cinquième question. Alors là, question technique, hein. Calculer globalement et pour chaque modèle l'écart sur marge brute conformément aux indications fournies par Monsieur Nicou. Donc là, bon, ben là, il faut avoir évidemment travaillé le cours. Dans le cours que je vous ai fait, moi, je vous propose pour les écarts de marge de le présenter sous forme de tableau, hein, avec, par exemple, hein, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le cours, les quantités réelles vendues, le prix de vente unitaire réel, en multiplie l'un par l'autre, ça fait le chiffre d'affaires réel, etc., etc. Et en faisant ça, les montants apparaissent directement, d'accord. Ensuite, évidemment, logique et classique, il faut s'y attendre à chaque fois qu'il y a des écarts. Bien sûr, un commentaire concernant les écarts que l'on vient de trouver, puisque certains évidemment sont favorables, l'autre, les autres défavorables, hein, que ce soit pour les coffrets 1 ou les coffrets 2. Donc là, rien que du classique, et ça, honnêtement, disons que dans l'ensemble, il me semble que c'était facile d'avoir la moyenne sur ce premier dossier, très honnêtement. Deuxième dossier, contrôle budgétaire de la production. Alors là aussi, du classique et du pas classique à cause de l'erreur, mais en tout cas, première question, préciser à quoi correspond un coût standard, son utilité, ses limites dans le cadre de la démarche envisagée. Donc ça, bon, ben ça c'est du cours, hein, le principe des coûts standards, les intérêts des coûts standards, les limites des coûts standards, vous l'aviez dans le cours, c'était aussi tombé en 2017, d'accord, donc exactement la même chose. Deuxième question, vérifier en justifiant vos calculs que le coût horaire standard de la main-d'œuvre est de 17,20 €. Bon, ben là, vraiment, franchement, alors en plus, on connaissait le coût, donc même ceux qui ont un petit problème en tâtonnant, ils l'auraient bien trouvé, mais enfin bon, c'était franchement ça, c'était pas difficile. Ensuite, calculer le coût standard d'un carton de shampoing nutrition au miel d'oranger. Bon, ben là aussi, franchement, c'était pas bien compliqué, à condition de savoir que dans une tonne, il y a 1000 kilos et que dans un kilo, il y a 1000 grammes, hein, évidemment, hein, la base, et que dans une heure, il y a 60 minutes. Si on sait ça, bon, ben voilà, ça, c'était franchement pas difficile à déterminer, ce coût standard. Ensuite, et c'est là où évidemment certains ont dû perdre du temps et s'énerver, etc., c'est calculer l'écart global sur charge indirecte dans l'atelier fabrication. Donc, alors moi, dans la correction, ce que j'ai fait, hein, et d'ailleurs dans l'énoncé de ce sujet, j'ai indiqué dans l'énoncé les bons montants qu'il y aurait dû y avoir, et si je les ai stabilobossés en jaune pour que vous voyez bien où ça se situe. Et là, dans la correction, j'ai écrit « correction de l'énoncé du sujet dans l'annexe 4, correction concernant la production normale de carton et correction concernant la production réelle de carton. Donc la production normale, c'est 75 000 cartons et pas 6 000 comme indiqué dans l'énoncé. Mais c'est vrai que si ça n'avait pas été un examen, et pour un examen aussi difficile avec si peu de réussite au niveau national pour ce type d'interrogation, en fait on pouvait le retrouver, enfin j'allais dire corriger l'erreur, parce qu'en fait il y avait 1 500 000 flacons, ça on le sait, et il y a 20 flacons par carton, donc forcément ça fait 75 000 cartons, hein, 1 500 000 divisé par 20, ça fait 75 000, vous voyez, ça, on pouvait en dehors du stress, on pouvait le retrouver. Mais enfin, bon, c'est difficile avec le stress et le peu de temps qu'il y a pour faire tout, de prendre le recul nécessaire. Et puis, pareil, exactement, même principe, mais pour la production réelle. La production réelle est de 67 500 cartons et pas de 6 750 comme indiqué dans l'énoncé. Pourquoi ? Ben là aussi, c'est pas très difficile. Enfin, encore une fois, exactement la même chose que pour la production normale. Si on avait pu, si vous aviez un peu de un moins de stress, etc., vous auriez pu le trouver. Par exemple, si ça avait été un cas pratique ou quelque chose comme ça à faire à la maison, vous seriez rendu compte assez rapidement quels étaient les bons montants qu'il fallait utiliser. Bon, voilà, par exemple, 1 350 000 flacons production réelle, et on sait qu'il y a 20 flacons par carton. Donc, ça fait forcément 1 350 divisé par 20, ça fait 67 500 cartons et pas 6 750. Ceci dit, forcément, encore une fois, beaucoup d'entre vous, et on le voit bien à travers les messages de partout sur les réseaux sociaux, que ça vous a, pour certains d'entre vous, beaucoup perturbé. Mais enfin, ne vous affolez pas non plus, faut pas exagérer. Les correcteurs vont tenir compte, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, ça me paraît impossible autrement, de plusieurs solutions prises. Alors, ça va être compliqué pour eux parce que du coup, des gens, certains vont avoir corrigé, il y en a qui vont corriger une partie, corriger les deux erreurs, et donc du coup, ça va multiplier les possibilités de résultats, etc., etc. Moi, en tout cas, dans la correction, j'ai fait comme si il n'y avait pas eu d'erreur, donc j'ai pris les bons montants théoriques, logiques, d'accord, concernant ces écarts. Donc à partir de là, encore une fois, comme je vous disais dès le départ, c'est dommage cette erreur, parce que sinon c'est un grand classique. Là, il y a rien à dire, hein, au niveau du sujet, hein. Donc trouver l'écart sur charge indirecte et après décomposer cet écart en écart sur budget, activité, rendement, et contrôler avec l'écart global exactement conformément à mon cours, les cas pratiques, les devoirs, tout ça, c'est vraiment il y avait autrement aucune difficulté. Et ensuite, logique et complètement analyser question 6, les différents écarts calculés, proposer une piste pour améliorer la situation. Toujours pareil, ça c'est grand classique, commenter les écarts. Là, franchement, c'était pas très difficile en dehors, encore une fois, de ces erreurs. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage. Ensuite, analyse, dossier 3, analyse de la rentabilité, 3,5. Alors là, vraiment, il y avait toute une partie qui était vraiment vraiment simple. Ça, c'était peut-être le dossier le plus facile, honnêtement, hein. Alors c'est vrai qu'il ne valait entre guillemets que 3,5, mais enfin, il me semble que c'était tout à fait abordable. Première question, présenter dans un tableau le calcul de la marge sur coût variable, du taux de marge sur coût variable et du résultat. Donc là, vraiment, franchement, cadeau, ça, hein, y a pas de souci. Deuxième question, calculer le seuil de rentabilité en volume et en valeur. Aucun problème non plus si vous avez suivi le cours que je vous ai fait, bien sûr. Quelle quantité faudrait-il vendre pour atteindre le taux de profitabilité attendu? Aucune difficulté non plus, surtout qu'il y a au moins deux cas pratiques que vous aviez en ligne qui portaient exactement sur la même problématique, pas de souci. Et ensuite, l'élasticité. Quatrième question, calculer l'élasticité prix. Là aussi, bien sûr, vous l'aviez dans le cours, avec l'élasticité prix de la demande, hein, c'est quantité 2 moins quantité 1 sur quantité 1, divisé par prix 2 moins prix 1 sur prix 1. D'accord. Donc ça, pas de souci. On avait les variations, on avait les quantités, etc. Donc c'était quand on connaissait évidemment, ou on se souvenait de comment calculer l'élasticité prix de la demande, c'était du coup évidemment très facile, fait en quelques secondes. Et ensuite, cinquième question, commenter l'ensemble des résultats obtenus en précisant les limites des outils utilisés, puis proposer une liste d'actions envisageables pour l'avenir. Ah bon, là encore une fois, ça c'est le type de question auquel je sais bien que vous n'aimez pas trop, auquel vous n'aimez pas trop répondre, vous savez pas trop quoi répondre. Mais enfin, il y avait des moyens quand même, ne serait-ce que commentaire de l'ensemble des résultats obtenus. Ça, c'était quand même, on pouvait quand même dire quelque chose. Autrement dit, sur cette question-là, on pouvait quand même glaner quelques points. Ensuite, dossier 4, pilotage de la qualité, 6 points. Ah, là, c'est quand même, c'était un beaucoup plus technique, parce que là, il fallait bien sûr, dans les outils mathématiques de gestion, savoir travailler sur l'utilisation de la loi normale, l'échantillonnage, etc., etc. Évidemment, si là-dessus vous aviez fait l'impasse, du coup ça devient compliqué. Mais quand même, il y avait quand même à l'intérieur de ça des questions auxquelles vous pouviez répondre. Par exemple, la première, identifier l'outil de gestion qui permettrait de suivre au fil du temps les améliorations de performance du service approvisionnement en précisant son intérêt. D'accord. Bon, ben ça c'est donc le tableau de bord. Enfin, vous voyez, ça c'est un grand classique. Vous voyez, ça vous auriez pu prendre des points. Montrer les enjeux d'une démarche qualité pour le service approvisionnement. Trois enjeux attendus. Bon, ça il y avait ce qu'il fallait. Alors là aussi, il s'était trompé. Il disait qu'on fait l'annexe 6 dans la question, mais en fait c'était l'annexe 7. Bon, mais ça c'était pas très grave, hein, il n'y avait pas de, ça portait pas conséquence. Et là, d'ailleurs, peu de gens, voire personne, a dû s'en rendre compte. Mais c'est pas, ça c'est pas grave, hein, faut pas dire j'ai pas eu l'examen à cause de ça. Hein, là, c'est pas vrai, hein, pour cette erreur-là. D'accord. Donc ça, voyez, vous auriez pu quand même glaner quelque chose. Après, quelle est la probabilité, question 3, de recevoir un fût de miel avec une teneur supérieure à 15 200? Bon, ben ça. Par exemple, ça, cette question-là, j'estime que vous devez savoir là, y répondre. Encore une fois, parce que je vous ai toujours dit, y compris dans les conseils, que l'utilisation de la loi normale et savoir calculer la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit donc ici une loi normale de moyenne temps et d'écart type temps, on doit savoir calculer la probabilité que ce soit supérieur à, inférieur à, compris entre temps et temps. Et cette question-là, ça faisait partie des questions qui étaient tout à fait abordables. Alors après, c'est là la question 4 et 5. Alors ça, soit vous souveniez tout ce qu'il y a dans le cours qui concerne l'échantillonnage, et c'était du coup conforme au cours, il n'y a pas de problème particulier, soit vous en souvenez pas, et là ça devient évidemment difficile. Ceci dit, même si ces questions 4 et 5, admettons que vous n'ayez pas pu y répondre, il y avait quand même aussi la question 6 et 7, les questions 6 et 7 auxquelles vous auriez pu répondre. Question 6, préciser une limite de cette méthode et indiquer les outils qu'il serait possible de mettre en place. Donc, limite de la méthode, fiabilité de l'échantillon, validité, évidemment. Est-ce que les paramètres qu'on nous donne de la loi normale sont les bons, en fait, quand même, hein, voilà. Et puis, les outils à mettre en place, le Pareto, Ishikawa, analyse de la valeur, etc., etc. Vous voyez, là, vous auriez pu aussi, même sans avoir répondu aux questions sur l'échantillonnage au sens littéral du terme, là-dessus, prendre quelques points. Et puis, enfin, classique, quand il y a une question sur les tableaux de bord, on vous demandait là, proposer trois facteurs clés de succès et les indicateurs, enfin au moins deux indicateurs par facteur clé de succès. Donc là aussi, il y avait de quoi quand même prendre quelques points là-dessus. Donc en fait, hein, pour conclure, les erreurs, c'était vraiment dommage. Parce que sinon, encore une fois, je ne dis pas c'est facile, parce que c'est pas vrai, ce n'est pas facile, compte tenu vu la longueur du sujet, etc., etc. Mais s'il n'y avait pas eu ces erreurs, je pense que c'était un sujet classique, assez équilibré, avec, c'est vrai, quand même, bon, dans le quatrième dossier sur le pilotage de la qualité, l'histoire de l'échantillonnage, qui, je sais, statistiquement, pose de problèmes à beaucoup de candidats qui n'aiment pas beaucoup les outils mathématiques de gestion. Mais disons que sinon, c'était un sujet qui était, en dehors de ça, abordable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que la plupart d'entre vous n'ont pas quand même été trop perturbés et, encore une dernière fois, ne vous affolez pas non plus, parce que il y aura probablement, enfin même certainement, une des points supplémentaires, ou un ou des points supplémentaires, je sais pas, compte tenu de cette erreur. Là, c'est sûr que les correcteurs vont tenir compte. Et donc, vous n'aurez pas zéro, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, et on acceptera, ils accepteront, en fonction de si vous avez été logique, plusieurs types de réponses. D'accord? Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous et bon courage et à bientôt. Au revoir.